Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on est pour moi le 30 mars 2020 et ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de podcast, une petite semaine, et il s'est passé pas mal de choses. Donc pour remettre dans le contexte, là ça doit faire quoi? Ça doit faire. Bah on est le lundi. On a été en confinement le mardi d'il y a 2 semaines à midi, donc ça fait quasiment 2 semaines qu'on est tous confinés, qu'on est tous chez nous. Et comme je l'ai dit du coup dans mes podcasts sur le confinement, je mets l'accent pas mal sur mon business de coaching actuellement. Et du coup, je sais pas si tu l'as vu, notamment sur Instagram, il y a eu beaucoup de... Enfin, beaucoup. Pour moi, il y a eu beaucoup de changements. Premièrement, sur mon nom, d'accord? Donc, j'ai changé de nom. Je voulais un nom qui... Donc, pour donner l'histoire un petit peu du nom, je ne vais pas parler que ça dans le podcast parce que je veux te faire un Q&A par rapport aux questions que j'ai eues sur Instagram. Mais le nom que j'ai pris, donc, il s'appelle l'entraîneur français. Je voulais un nom qui n'est pas train, fit, coach ou hit dans le nom, parce qu'en fait, tout le monde a ça. Et moi, j'aime pas trop être... comme tout le monde de ce point de vue-là, du moins, d'accord? Et je voulais un nom français également, parce que voilà, on voit beaucoup de... Enfin, le fitness est très, on va dire, anglophone, si je peux dire ça comme ça, et le fitness français se développe, mais en Angleterre, ils sont quand même bien plus avancés que nous. Donc, je voulais un nom français. J'ai pensé à le coach français, que je trouvais bien, mais le mot coach m'embêtait un peu, même si ça reste... ma vocation et ce que je fais dans la vie, mais ça me faisait penser un peu au slip français. Je sais pas si tu connais le slip français, qui est une très bonne marque, et du coup j'ai quand même voulu m'inspirer un peu d'eux, mais sans pour autant trop vouloir copier. Donc je me suis nommé l'entraîneur français. Je trouve que entraîneur, ça va un peu avec l'ambition que j'ai dans ce projet là dans la création de mon entreprise, d'accord? Donc parce que du coup j'ai plusieurs tu verras, j'expliquerai plus tard, dans quelques semaines je pense, je vise plusieurs choses. Et puis j'ai également voulu faire un logo, donc je n'ai pas fait le logo moi-même comme le premier, qui était bien pourri d'ailleurs. J'ai fait faire un logo par un graphiste. Si tu veux la référence, en fait j'étais sur un site qui s'appelle 5euros.com. C'est un site où tu peux avoir des choses à partir de 5€ avec des mecs qui sont en freelance, etc. Bref, donc c'est pour la petite astuce du jour. Et du coup j'ai eu un mec qui m'a fait un logo en une semaine, qualité pile ce que je voulais. Je lui ai donné mes indications, il me l'a fait. Et donc du coup mon logo c'est en profil Instagram. Et j'ai quand même laissé le by PL en bas du logo parce que ça reste mon nom, Pierre-Louis, et je voulais quand même avoir cette signification sur le logo de mon entreprise. Donc voilà où j'en suis actuellement. Ce que j'ai fait en plus à côté de ça, c'est que du coup, je suis en train de revoir toute ma trame de coaching. J'ai beaucoup travaillé dessus, comme je te l'ai dit, d'accord ? Du coup, là, je suis en train de préparer un gros truc qui, j'espère, va sortir au début du confinement, là où, a priori, je lancerai de nouveau des coachings. Avec mon nouveau nom, d'accord, ce que je ne fais pas actuellement parce que je préfère passer du temps à perfectionner le truc pour ajouter de la valeur à ce coaching là. Je t'en parlerai en détail. À côté de ça, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine aussi? Bon, évidemment, je me suis pas mal entraîné, mine de rien, par rapport à ce que j'avais dit. En fait, c'est con, mais comme j'avais évoqué dans mon dernier podcast, que ce que je voulais faire, c'était m'entraîner un peu, enfin, au feeling, mais surtout progresser sur des exercices. Que je faisais pas habituellement et d'exercices assez précis. Donc j'arrive à faire un pistol squat maintenant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai fait pas mal d'exo, de gainage, etc. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné au feeling. Ça veut dire que voilà, mes séances elles durent 30 minutes, 1 heure. Je peux faire de la muscu comme du cardio. Ce matin, j'ai fait. Alors, j'ai découvert un truc, je connaissais, mais j'ai fait du body combat. Si tu veux, c'est un cours collectif et c'est géré par la société Les Miles. Et ils ont mis des cours, du coup, pendant le confinement, gratuitement sur YouTube. Alors, il n'y en a pas 10, hein, mais il y en a peut-être 2 ou 3. Il me semble. Et bah du coup hier j'ai vu un membre de ma quelqu'un de mes proches qui faisait un body combat, et je me fais ah, ça a l'air cool, j'aimerais bien essayer, tu vois. Et j'en ai fait un ce matin, et bien figure-toi que c'était trop cool. Alors je pense que le fait de varier ça rend ça cool, mais si tu veux, c'était cardio sans trop l'être parce qu'il y avait beaucoup de techniques. Ça se rapproche du public que je veux viser, notamment en sport automobile. Et voilà, c'était beaucoup de coordination, etc. Avec quand même un cardio qui monte. Donc le cardio n'impactait pas la réalisation de l'exercice, chose qui me faisait un peu peur. Mais du coup, c'était vraiment top. Et je pense que je recommencerai peut-être pas demain, mais peut-être dans un jour parce que c'était vraiment intéressant. Et pourquoi pas pour plus tard, me mettre un peu à la boxe, ça pourrait être vachement intéressant. Voilà, c'est qu'une idée, je dis pas que je le ferai, mais en tout cas ça m'a plu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Évidemment, bah, comme je dis, j'ai beaucoup bossé, je me suis entraîné, je me suis pas mal baladé aussi. Je sais, normalement on n'est pas censé se balader, mais en fait je suis confinés en campagne. Et du coup, on a un petit tour à faire qui passe par la forêt. Il n'y a personne. Je me balade avec les gens avec qui je suis confiné, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et bah, du coup, j'ai marché plus que d'habitude. D'habitude, je marche facile 2-3 000 pas. Et là, je suis monté des fois à 10 000 pas. Seule chose qui est, on va dire, incroyable chez moi. Donc, c'était plutôt cool. Bon, assez raconté ma vie. Je vais passer au sujet du podcast. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais du coup répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'ai fait du coup une petite story où j'ai demandé à ce qu'on me pose des questions par rapport au podcast, et j'en ai sélectionné 5 qui me paraissent assez intéressantes. Donc je t'avoue que je réponds un peu, on va dire, sans préparation. J'ai juste les questions devant moi, j'ai pas vraiment préparé les sujets au préalable, parce que je trouve que c'est, je préfère faire comme ça en fait, répondre un peu au feeling. Donc la première question, c'est la nuance entre satiété et être rassasié, donc au niveau alimentaire. Être rassasié, si je dis pas de bêtises, c'est le fait d'être à satiété d'un aliment. Ça veut dire que t'en as marre de manger un aliment et t'as plus envie de le manger. Imaginons, voilà, tu t'envoies 4 bananes sur un repas, ce qui ne remplit pas ton total calorique du repas, t'auras pas envie de manger une cinquième banane. Par contre, tu auras encore faim pour d'autres aliments, je sais pas, des pommes de terre, du chocolat, autre chose, d'accord, des fruits. Du coup, tu ne seras pas à satiété, mais tu seras rassasié d'un aliment. Être à satiété, c'est quand tu finis un repas complet, d'accord, donc tu as eu tous tes macros, tu as eu une diversité alimentaire, etc., dans ton assiette, et tu n'as absolument plus faim pour n'importe quel aliment. Donc ça, c'est vraiment être à satiété. En soi, on s'en fout un peu, parce que le but, c'est quand même de respecter juste son total calorique la plupart du temps, ok, d'atteindre ses macros la plupart du temps, donc en termes de répartition protéines, lipides et glucides, d'avoir son total calorique, enfin son total, on va dire, en légumes, fruits, etc., donc en micronutriments, en produits bruts le plus possible si tu peux, et voilà. Donc ça, c'est juste pour une nuance. Après, bon, c'est rare de s'envoyer 4 bananes d'un coup, donc il n'y a pas vraiment de risque à ça. Ok, donc voilà pour la nuance entre satiété et être rassasié, pardon. Alors pourquoi les gens n'aiment pas sortir de leur zone de confort? C'est une excellente question, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour te donner un exemple, ce matin, quand j'ai fait le body combat, en fait, hier, j'ai évoqué l'idée d'en faire un, et en fait, quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit c'est cool, et puis au final 2 heures après je me suis dit non mais c'est con, c'est du cardio, t'as pas l'habitude, ça va être chiant. Et bah figure-toi que c'était très bien, et ça m'a sorti de ma zone de confort, dans le sens où c'était quelque chose d'inhabituel. Et sortir de sa zone de confort, c'est quand on fait quelque chose qui est inhabituel, mais surtout qui nous met, j'allais pas dire mal à l'aise, mais dans une situation, bah, logiquement, hein, d'inconfort. Imagine que ta zone d'habitude, c'est un cercle, d'accord. Donc dans ce cercle, tu as toutes tes habitudes que tu fais dans la vie quotidienne, etc. Et autour de ce cercle, tu as des éléments que tu peux inclure dans ta routine, ok. Donc ça peut être, je sais pas moi, changer de sport de temps en temps pour diversifier si tu as envie. Ça peut être, je sais pas moi, changer une mauvaise habitude, tu vois. Et ça, c'est autour de ce cercle-là, ok. Et quand tu le fais, c'est chiant, parce que c'est quelque chose que tu n'as forcément pas l'habitude de faire, mais surtout qui est que tu n'as pas envie de faire, d'accord. Et le fait de sortir de ce cercle, ça va faire quoi? Ça va faire que si tu tiens, on va dire, sur le long terme, ce changement d'habitude, et bah au bout d'un moment, ce cercle va s'agrandir et ça va s'ancrer dans tes habitudes. Imaginons que tu aies du mal, tiens, on va prendre un exemple classique, tu aies du mal lorsque tu travailles, donc quand tu te mets dans des ce qu'on appelle une session de deep work, okay, lorsque tu te mets dans une session où tu dois travailler, tu as souvent le portable qui vient de te perturber. Ça peut être via les notifications des réseaux sociaux, quelqu'un qui t'appelle, qui t'envoie un message, ou la simple envie tout simplement d'aller sur les réseaux sociaux, ou lire un article, ou regarder une vidéo YouTube pour voir ce qu'il se passe, d'accord. Eh bien, sortir de ta zone de confort, ça peut être te dire ok, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon portable et je vais le mettre dans une pièce différente de celle où je travaille, d'accord. Donc ça, tu vas le faire au début, et puis en fait, vu que tu as l'habitude de scroller un peu sur ton portable lorsque tu travailles, eh bien là tu vas pas pouvoir le faire, à part si tu sors de la pièce, donc, et tu vas dans l'autre pièce chercher ton portable, ce qui est chiant. Et ben ça va te sortir de ta zone de confort, ok. Un autre truc, là on va parler un peu alimentaire, c'est imaginons que ta faiblesse ce soit de manger trop de chocolat le soir, ok. Imaginons que tu en manges facilement 5 ou 6, et c'est ça en fait qui te fait un peu, ça va pas exploser tes résultats, d'accord, ou les abaisser totalement, mais ça va juste tout simplement, ça t'empêche d'atteindre sur le long terme des résultats, on va dire, fiables, ok. C'est ta petite faiblesse, d'accord. Et bah le fait de se dire ok bah je vais commencer par en manger 3 ce soir, ok, et ben au début ça va être pénible parce que ça va te sortir de ta zone de confort, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle les gens ont du mal, parce que pour répondre à la question quand même, c'est qu'en fait ça va sortir de ton cercle d'habitude, ok? Mais ce cercle, il est agrandissable à volonté. Par contre, il peut se rétrécir aussi si tu fais n'importe quoi, d'accord? Et en fait au début, ça va être pénible de manger 3 chocolats par jour parce que t'es habitué à manger 5. Et puis au bout d'un moment, ça va le faire. Alors, ça fait pas ça pour tout, hein, c'est pour ça que la plupart des régimes craquent, parce que c'est trop restrictif, d'accord? Mais pour sortir de ta zone de confort, ce qu'il faut faire, c'est y aller progressivement, mais ne pas oublier que au bout d'un moment, il faut se bouger les fesses, d'accord? Donc la principale raison, c'est que les gens, lorsqu'ils veulent sortir de la zone de confort, font des choses inhabituelles qu'ils n'ont pas forcément envie de faire de leur plein gré, d'accord? Et surtout de façon automatique. Donc voilà, c'est un cercle que tu peux agrandir. C'était vraiment la meilleure explication que je puisse donner pour l'explication et pourquoi les gens ont du mal à sortir de leur zone de confort. Ensuite, troisième question, comment travailler son handstand? Alors, le handstand, c'est un mouvement d'équilibre sur les deux mains, d'accord? Donc en fait, c'est le poirier en équilibre sur les deux mains. Et ça demande beaucoup de technique parce que le but, c'est d'être le plus droit possible. Le but, c'est pas d'être en mode j'ai les jambes hyper écartées et mon bas du dos et l'ensemble de mon corps fait un espèce de C, ok, de C inversé, on peut dire ça comme ça, parce que justement c'est pas forcément comme ça qu'il faut le faire, et c'est un mouvement très très complexe. Comment le travailler? En fait, j'ai eu une expérience avec un client comme ça une fois, et si tu veux, c'était un de mes premiers clients, et moi j'avais lu que le handstand, parce que je m'étais renseigné, c'était pas forcément mon... On va dire c'est plutôt du street workout, donc c'était pas ma vocation ni mon domaine de spécialisation. Et bien du coup, j'avais lu qu'il fallait l'entraîner tous les jours. Donc du coup, j'avais dit à mon pote, voilà, tu vas me faire 5-10 minutes de handstand, peut-être 3-4 séries, tous les jours, à chaque fois que tu vas t'entraîner. Donc il s'entraînait 4 fois par semaine, du coup il faisait 4 fois du handstand. Et en fait, au bout d'un mois, il s'est fait mal au poignet. Par ma faute, parce qu'en fait je lui avais dit de le faire 4 fois par semaine. Bon, aujourd'hui c'est corrigé, t'inquiète pas, hein. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait c'est très con, pourquoi? Parce que vouloir entraîner son handstand tous les jours, parce que généralement on peut le faire tous les jours, c'est ce que j'avais lu, hein. Moi je lui avais dit que 4 fois par semaine, c'est parce qu'en fait tu vas induire un effet de répétition sur les muscles en question, bon les muscles c'est pas trop grave, mais surtout les articulations. Okay, et l'articulation du poignet, entre autres, c'est elle qui a eu du mal et qui a souffert sur le long terme. Donc, comment travailler son handstand? Alors, je suis pas un pro, mais déjà, ne pas le faire tous les jours. Ça peut être se dire, ok, quand je le fais, c'est dans des séances précises, ok, généralement au début de séance, parce que c'est là où tu es le plus frais, et c'est là que tu peux faire un peu de travail technique, et c'est surtout me limiter à 3 ou 4 séries, parce que si tu fais 10 séries de handstand, ta 10e, elle sera pourrie comparée à ta première, parce que tu auras une fatigue musculaire, voire nerveuse si tu insistes trop, à la longue, d'accord? Donc le faire petit à petit, et surtout faire 2 fois par semaine. Ensuite, au niveau des niveaux, c'est pas très français, mais par rapport au niveau de difficulté, alors généralement, ce que j'avais fait au début, c'est que on faisait du coup contre un mur, ok, contre un mur, en essayant du coup de se décoller au fur et à mesure. Ça veut dire que tu pars, d'accord, tu te cales contre le mur au début, ok, en gainant le plus possible. Et ensuite tu vas essayer de te décoller du mur petit à petit. Donc ça peut être commencer par un pied, ok, puis voir comment tu tiens, combien de temps tu tiens, ensuite deux pieds, etc. Et puis au fur et à mesure tu peux te filmer également pour voir comment tu es. En fonction de comment tu es, tu peux te dire ok, bah faut que je serre plus mes fesses, faut que j'ai ma tête droite, etc. Et ce que tu peux faire également, c'est demander à un mec qui maîtrise le handstand de préférence, de... lorsque tu le fais, de corriger. Ça veut dire il peut te maintenir, mais il peut te dire ok, je te conseille du coup de mettre ton cul comme ça, etc. Comme ça il te positionne, il te met dans la bonne position, et toi du coup tu sais quelle position avoir grâce au placement à la position dans laquelle il va te mettre, d'accord? Donc ça peut être une solution également. Donc je répète, ne pas en faire tous les jours, ok, par rapport à l'effet de répétition articulaire et même musculaire. Le faire sur des séances spécifiques en premier, ok, ne pas faire 10 séries mais plus 3-4, d'accord, je dirais plutôt 4, tu peux monter à 5 si tu veux, allez, soyons fous. Commencer sur un mur, essayer de décoller légèrement les pieds, et surtout se filmer et demander à quelqu'un qui maîtrise le handstand de se corriger. Ok, moi c'est les conseils que je peux donner, c'est pas un mouvement que je maîtrise, c'est pas mon domaine de spécialisation, mais selon mon expérience, je pourrais te donner ça comme conseil. Donc voilà pour le handstand. Maintenant, Mon avis sur les protéines en poudre. Alors, c'est une excellente question parce que c'est quelque chose qui est, on va dire, très démocratisé aujourd'hui dans le monde du fitness notamment. Parce que voilà, les protéines en poudre, c'est vu comme le produit dopant de la musculation par tous ceux qui ne sont pas du tout du milieu. Okay, si tu prends des protéines en poudre, t'es dopé, c'est pas naturel et tu vas gonfler tes muscles. C'est bien, bien évidemment très connu. C'est évidemment du gros bullshit. Et mon avis dessus, alors. Si tu peux les éviter et avoir d'autres sources plus intéressantes, c'est bien. Maintenant, en fonction du contexte, ça peut être une bonne idée d'en prendre. Évidemment, bah, on va reprendre depuis le début. Ça vient d'un produit laitier. Donc, les produits laitiers ont une biodisponibilité des protéines très intéressante, surtout quand le lait est cru, donc entier. Donc, je rappelle, la biodisponibilité, c'est le pourcentage des nutriments qui vont être absorbés par l'organisme issus d'un aliment. Donc, en élément de comparaison, par exemple, donc un truc que j'ai étudié récemment, le calcium dans le fromage est bien plus biodisponible que dans les épinards. Dans le fromage, tu vas avoir, on va dire, 35 voire 40% du calcium qui va être absorbé, donc digéré. D'accord? Tandis que dans les épinards, tu vas en avoir seulement que 5%. Donc, le niveau de biodisponibilité du calcium dans les épinards est moindre que celui dans le fromage. D'accord? Et bien, par rapport aux protéines en poudre, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ce sont des protéines qui ont été dégradées à cause de la transformation que le lait a subie. Okay? On va dire que les protéines en poudre, c'est, on va dire, des protéines de lait qui ont été séchées, on va dire, entre guillemets. D'accord? Si je dis pas de conneries. Donc, à cause de ça, à cause des différents processus de transformation, donc souvent tu chauffes le lait, enfin tu as plusieurs étapes, je les connais pas hein, toutes, mais c'est à peu près ça, on va dire, le gros du truc. Tu vas avoir plusieurs étapes qui font que ça va dégrader petit à petit les nutriments des protéines. Enfin, du lait, d'accord? Et surtout aussi il y a un effet de matrice. Alors c'est pas le principal, mais ça peut jouer surtout notamment sur les produits laitiers. Les protéines du lait cru sont bien plus biodisponibles parce qu'elles sont issues d'une matrice alimentaire qui mélange minéraux, lipides, etc. Parce que voilà, les nutriments interagissent entre eux pour s'absorber entre eux, on va dire, tout simplement. Et même au sein de l'organisme. Et donc le fait d'isoler les protéines et de les foutre en poudre, bah, d'une, elles se dégradent, et de deux, elles interagissent moins avec les autres nutriments. Donc c'est évidemment moins intéressant que du lait entier. Maintenant, ça dépend de la source que tu prends. Si tu prends, on va dire, des protéines de lait. Alors comment ils appellent ça? C'est pas du lait primaire, un truc comme ça. Ou du lait entier. Je sais plus. Bref, il y a une. Si tu faut pas prendre de. Enfin. Si tu veux, si tu compares de l'isolate de protéines, qui est vraiment des protéines très très réduites, à des protéines de lait entier, il me semble que c'est ça, les protéines de lait entier en poudre sont mieux. D'accord? Maintenant, si on compare un peu ça, si tu veux, tu vas avoir des protéines de lait entier en poudre, après tu vas avoir l'isolate, tu as même, je crois, hydroisolate, un truc comme ça, et après tu as acide aminé. Bon, ça sert à rien, l'acide aminé, si tu as assez de protéines dans ton organisme, dans ton alimentation, pardon. Mais du coup, pour revenir sur les protes, ce que je peux te conseiller par rapport à la prise de protéines en poudre, c'est de prendre des protéines généralement de lait entier. Okay, donc on va dire lait, enfin on va dire entière entre guillemets, qui n'a pas eu trop de processus de transformation, d'accord, pour que du coup les nutriments soient respectés. N'en fais pas ton alimentation, enfin ta source principale de protéines, ok. Et un souci, je pense que ça a, c'est que c'est cher. Généralement, c'est cher. Alors quand tu les achètes, moi je te conseille de les acheter en gros pack. Donc tu vas sur Nutrimuscle, qui est un bon site, et tu les achètes genre en 5 kilos. Ça va. Moi, j'avais déjà fait ça à une époque où j'en consommais parce que j'aimais bien en foutre dans les porridges, même des fois dans des boissons quand t'as pas forcément le temps, ça peut être une bonne idée. Bah, j'avais acheté 5 kilos en chocolat et c'était plus de la bonne qualité en vrai, hein. Et ça m'avait fait, je sais plus, quasiment un an parce que j'en consommais pas énormément non plus. Donc voilà. Après, je sais que pour les végétariens, ça peut être une bonne source. Alors attention aux sources de protéines végétales. Ok, c'est pas forcément les mieux. Néanmoins, ça peut, c'est mieux que rien. Okay, bien évidemment, mais voilà mon avis sur les protéines en poudre. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. C'était un peu fouillis parce qu'il y a beaucoup d'infos, mais j'espère que ça a été quand même assez clair. Je vois qu'on est à 20 minutes, je vais quand même répondre à une dernière question. Alors, question également très intéressante. Pour la presse, quelle position pour faire travailler davantage les fessiers? Alors, c'est vrai qu'on entend souvent dire qu'une position différente des pieds va impacter le recrutement musculaire. Alors c'est plutôt vrai, maintenant il faut quand même exagérer, parce que ça veut dire que si tu bouges de 2 cm tes pieds, ça va en aucun cas impacter le recrutement musculaire. Donc voilà, faut vraiment exagérer dessus. Faut prendre également un élément en compte, c'est que on s'en fout un petit peu de la position tant que tu as le mouvement. Là où je veux en venir, c'est que tes fessiers sont responsables d'une... Alors si je dis pas connerie, c'est une extension de hanche, okay, parce qu'ils vont te permettre de ramener, donc faire une rétropulsion de jambes, en fait, ils vont te permettre de ramener la jambe en arrière. Donc tant que tu as ce mouvement-là, tes fessiers vont être recrutés. Évidemment, il y a l'abduction de jambes également, mais là sur la presse, c'est vraiment du coup une extension de hanche. Tant que tu as ce mouvement-là, tu vas travailler tes fessiers. D'accord ? Tu vas également avoir, parce que tu vas avoir une extension de genoux, tu vas avoir également du coup tes quadriceps qui vont être recrutés et puis également tes adducteurs. Ok ? Après voilà, tu vas avoir les mollets en stabilisateur, les ischios également en stabilisateur, etc. Mais vraiment, il n'y a pas de position prédéfinie pour travailler plus ou moins les fessiers. Okay, si tu ouvres peut-être un peu les appuis vers l'extérieur, donc les pointes de pied vers l'extérieur, tu vas peut-être recruter davantage tes fessiers. Okay, mais je pense que avant de s'intéresser à ça, c'est plus intéressant. Enfin, tu vas plus gagner à faire de l'unilatéral parce que c'est plus intéressant pour recruter tes muscles en question. D'accord, parce qu'on n'est pas symétrique. Mettre un élastique éventuellement pour accentuer la contraction en fin de mouvement. Donc quand tu vas tendre l'élastique, lorsque tu vas pousser pour faire ton extension de hanche, tu vas tendre l'élastique, ce qui va rajouter de la tension lorsque ton muscle fessier est fort, donc en fin de mouvement. Et puis se concentrer sur prendre une fourchette de reps que tu gardes et sur laquelle tu progresses pendant le plus de temps possible. D'accord ? Donc il n'y a pas vraiment de position prédéfinie, juste fais le mouvement correctement, sans douleur. Et puis progresse dessus en charge petit à petit, semaine après semaine, sur une fourchette de répétition, on va dire, assez grande, mais ça dépend de ton programme. Mais tu peux facilement monter en 8, 12, voire 15 reps sur la presse en unilatéral. Donc voilà pour ce podcast-là. Les questions étaient vachement intéressantes. Je vous remercie vraiment pour toutes ces questions-là. Alors, il y en avait d'autres, mais je ne les ai pas prises parce qu'elles étaient un peu moins intéressantes. Et je les réserve peut-être pour d'autres podcasts. Je pense que je referai ça souvent parce que je trouve que c'est bien de pouvoir répondre à vos questions et de pouvoir vous aider, parce qu'en faisant ça, je vous aide. Je te remercie, toi, d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à le partager s'il t'a plu pour que je touche plus de personnes, pour que je puisse aider davantage de personnes. Tu partages ça en story, tu me tagues dessus et je te repartage. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je te souhaite un bon début de journée, une bonne nuit, un bon début d'après-midi. Ça dépend à quel moment tu écoutes le podcast. Salut.